Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de M. Bonhomé. Chapitre 68. Pendant que Newgate brûlait la nuit précédente, Barnabé et son père, après avoir passé de main en main à travers la foule, s'arrêtèrent dans Smithfield, derrière la populace, à contempler les flammes comme des gens qui venaient de se réveiller en sursaut. Il s'écoula quelques moments avant qu'ils pussent reconnaître distinctement où ils étaient et comment ils étaient venus, oubliant pendant qu'ils restaient là, spectateurs inactifs et nonchalants de l'incendie, qu'ils avaient dans les mains des outils qu'on leur avait donnés pour se délivrer eux-mêmes de leurs fers. Barnabé, tout enchaîné qu'il était, n'aurait rien eu de plus pressé, s'il avait suivi son instinct ou qu'il eût été seul, que de revenir se mettre aux côtés de Hugues, que son intelligence bornée lui représentait en ce moment comme brillant d'un nouveau lustre depuis qu'il voyait en lui son libérateur et son plus fidèle ami. Mais la terreur que son père éprouvait à rester dans les rues se communiqua bientôt à son esprit quand il eut compris toute l'étendue de ses craintes et lui inspira le même empressement à chercher ailleurs leur salut. Dans un coin du marché, au milieu des stalles à bétail, Barnabé s'agenouilla et se mit à briser les fers de son père en s'arrêtant de temps en temps pour lui passer sur la figure une main caressante ou pour le regarder avec un sourire. Lorsqu'il l'eut vu se dresser, libre, sur ses pieds, et qu'il se fut abandonné au transport de joie que lui causait cette vue, il se mit à l'ouvrage pour son propre compte, et bientôt ses chaînes, tombant avec fracas, laissèrent ses membres souples et dégagés. Quand cette tâche fut achevée, ils se glissèrent ensemble furtivement, passèrent devant des groupes de gens rassemblés autour de quelques misérables accroupis devant eux pour le cacher aux yeux des passants, mais sans pouvoir empêcher qu'on entendît retentir le bruit des marteaux qui annonçait assez haut qu'ils étaient aussi occupés de la même besogne. Les deux fugitifs se dirigèrent du côté de Clerkenwell, puis de là gagnèrent Islington, comme la sortie de Londres la plus voisine, et se trouvèrent en un moment dans les champs. Après avoir erré longtemps, ils trouvèrent, dans un pâturage près de Finchley, un misérable hangar dont les murs étaient de pisés et le toit de broussailles et de bruyères. C'était un abri destiné aux bestiaux, mais il était désert pour l'instant. C'est là qu'ils se couchèrent pour y passer la nuit. Ils errèrent encore de tous côtés quand le jour fut venu et Barnabé alla seul une fois vers un petit hameau à 2 ou 3 miles de là pour y acheter du pain et du lait. Mais n'ayant pas trouvé de meilleur lieu de retraite, ils revinrent au même endroit et s'y couchèrent encore en attendant la nuit. Il n'y a que Dieu qui puisse dire avec quelle vague idée de devoir et d'affection, avec quelle étrange inspiration de la nature, aussi claire pour lui que pour un homme qui aurait eu l'intelligence la plus radieuse et les facultés les plus développées, avec quelle obscure souvenance des enfants dont il partageait les jeux quand il était enfant lui-même et qui lui parlaient toujours de leur père, de leur amour pour lui, de son amour pour eux, par quelle association de souvenirs obscurs de la douleur, des larmes et du veuvage de sa mère, il soignait cet homme éveillé tendrement sur lui. Mais si vagues, si confuses que fussent ces idées qui étaient venues l'émouvoir par degrés, c'est à elle qu'il devait le chagrin qu'il montrait en regardant son visage égaré, les larmes qui inondaient ses yeux en se baissant pour l'embrasser, le soin avec lequel il l'éveillait tout content au milieu de ses pleurs, l'abritant du soleil, l'éventant avec des branchages, la calmant dans les sursauts de son sommeil, ah, quel sommeil agité, et se demandant si elle ne voudrait pas bientôt les rejoindre pour que leur bonheur fût complet. Il resta assis près de lui tout le jour, l'oreille au guet, pour écouter le pas de sa mère à chaque souffle de l'air, cherchant au loin son ombre sur les herbes mollement balancées par le vent, tressant les fleurs des haies pour qu'elle en eût le plaisir quand elle arriverait, et lui aussi quand il s'éveillerait, enfin se baissant de temps en temps pour écouter les murmures des rêves de son père et pour s'étonner qu'il ne goûtât pas un meilleur repos dans un lieu si tranquille. Le soleil disparut, la nuit vint, et le trouva aussi paisible, tout entier à ses pensées, comme s'il n'y avait qu'eux au monde, et que le lourd nuage de fumée qu'on voyait de loin, suspendu sur l'immense cité, ne recéla ni vice, ni crime, ni vie, ni mort, ni aucun sujet d'inquiétude, comme si c'était seulement le vide de l'air. Mais l'heure était enfin venue, où il fallait qu'il allât seul chercher l'aveugle. Quel bonheur pour lui, et le ramener là en prenant grand soin qu'on ne l'épillât et qu'on ne le suivît en chemin. Il écouta bien les instructions qu'il devait observer, les répéta souvent pour être sûr de les retenir, et après être revenu deux ou trois fois sur ses pas pour faire une surprise à son père, en riant à cœur joie, il finit par partir sérieusement pour accomplir sa commission en lui recommandant d'avoir soin de Grippe, qu'il n'avait pas oublié d'emporter de la prison dans ses bras. Agile et impatient de revenir, il ne fut pas long à gagner la ville. Cependant, quand il arriva, les incendies étaient déjà allumés et insultaient aux ténèbres de la nuit avec leur éclat affreux. À son entrée dans la ville, peut-être ce changement venait-il de ce qu'il n'avait plus là près de lui ses anciens compagnons et qu'il n'était point chargé d'une commission violente. Peut-être aussi cela venait-il de la beauté, de la solitude où il avait passé la journée, ou des pensées qui l'avaient occupé, mais enfin Londres lui parut peuplée d'une légion de démons. Cette fuite et cette poursuite, cette dévastation cruelle par le fer et la flamme, ces cris effrayants, ce tapage étourdissant, il se demandait si c'était bien là la noble cause du bon lord. Malgré la stupeur où le plongeait cette scène sauvage, il trouva pourtant le logis de l'aveugle. Tout était fermé, il n'y avait personne. Il attendit longtemps, mais en vain. Il finit par s'en aller, et comme il apprit justement en ce moment-là que les soldats venaient de tirer et qu'il devait y avoir beaucoup de morts, il se dirigea vers Holborn, où on lui avait dit qu'était le grand rassemblement. Il voulait essayer d'y rencontrer Hugues pour lui persuader d'éviter le danger et de revenir avec lui. S'il avait été abasourdi et dégoûté du tumulte tout à l'heure, son horreur ne fit que redoubler en pénétrant dans ce tourbillon de l'émeute, et lorsqu'il en eut sous les yeux ce terrible spectacle, sans y prendre part. Mais enfin, là, au beau milieu, dominant le reste des insurgés, tout près de la maison qu'on attaquait alors, Hugues était à cheval, appelant, animant tous les autres. Le tumulte qui l'entourait, la chaleur étouffante, les cris, les craquements, tout cela lui faisait mal au cœur. Cependant, il pénétra de force au travers de la foule, reconnut de bien des gens qui se reculaient en poussant des bravos pour le laisser passer, et il arriva justement auprès de Hugues au moment où il proférait des menaces sauvages contre quelqu'un, mais contre qui et pourquoi l'extrême confusion de cette scène ne permettait pas à Barnabé de le savoir. Au même instant, la foule se précipita dans la maison dont elle avait brisé la porte et Hugues, il fut impossible de savoir comment, tomba à terre tout de son long. Barnabé était à côté de lui quand il se remit sur ses pieds, encore tout chancelant. Heureusement pour lui qu'il fit entendre sa voix, car Hugues levait sa hache pour lui fendre le crâne en deux. « Barnabé, vous, quelle était donc la main qui m'a jeté par terre? Ce n'est toujours pas la mienne. Qui donc est-ce? Je vous demande, qui c'est ? » Et a-t-il en vacillant et en regardant autour de lui d'un air farouche, « Voyons, dépêchons-nous, où est-il? Comme le montre !»« Vous avez du mal, » lui dit Barnabé. Et en effet, il était blessé à la tête, d'abord du coup qu'il avait reçu, et puis d'une ruade de son cheval. « Venez-vous-en, avec moi !» En même temps, il prit en main la bride, tourna le cheval, et entraîna Hugues à quelques pas de là. Cela suffit pour les dégager de la foule, qui se précipitait de la rue dans les caves du négociant en vain. « Où donc est Dennis ?» dit Hugues, s'arrêtant tout court et saisissant Barnabé de son bras vigoureux. « Où est-il resté tout le jour? Qu'est-ce qu'il voulait dire en me laissant là hier au soir dans la prison? Dites-moi ça, le savez-vous » En faisant tourner son arme dangereuse, il tomba par terre, étendu comme un chien. Une minute après, quoique exalté déjà jusqu'à la frénésie par la boisson et par sa blessure à la tête, il rampa jusqu'à un courant d'eau de vie enflammée qui coulait dans le ruisseau et se mit à en boire comme de l'eau. Barnabé le tira de là et le força à se relever. Quoiqu'il ne fût capable ni de marcher, ni de se tenir debout, il se dirigea involontairement, en trébuchant, jusqu'à son cheval, grimpa sur son dos et s'y tint attaché. Après de vains efforts pour dépouiller l'animal de ses harnais sonores, Barnabé sauta en croupe derrière Hugues, attrapa la bride, tourna dans Leather Lane, qui était tout près de là, et mit à un bon trot le coursier effrayé. Cependant, avant de sortir de la rue, il regarda derrière lui. Il regarda un spectacle tel qu'il ne devait plus s'effacer jamais, même de sa pauvre mémoire, dût-il vivre 100 ans. maison du négociant en vin, avec une demi-douzaine de maisons voisines, n'était plus qu'une grande et brûlante fournaise. Toute la nuit, personne n'avait essayé d'éteindre les flammes ou d'en arrêter le progrès. Mais, pour le moment, un détachement de soldats était sérieusement occupé à abattre deux maisons en bois qui étaient à chaque instant en danger de prendre feu et qui ne pouvaient manquer, si on les laissait s'enflammer, d'étendre au loin l'incendie. La chute bruyante des murs vacillants et des énormes pièces de charpente, les huées et les vociférations de la foule furieuse, la fusillade lointaine d'autres détachements militaires, les regards éplorés et les cris de détresse de ceux dont les habitations étaient en péril, la course errante des gens effrayés qui emportaient leurs effets, la réflexion sur chaque partie du ciel des flammes d'un rouge de sang qui s'élançait dans l'air comme si le dernier jour était enfin venu et que tout l'univers fût en feu, la poussière, la fumée, les tourbillons de flammèches qui venaient roussir et allumer tous les objets sur lesquels elles tombaient, les bouffées de chaleur malsaines qui venaient tout infecter, les étoiles, la lune, le ciel même éclipsé, tout cela présentait un tel spectacle de ruines et de terreur qu'on eût dit que le firmament était effacé du coup et que la nuit, avec son repos tranquille et sa lumière douce, ne reviendrait plus jamais visiter la terre. Mais voici un spectacle bien pire encore, pire 100 fois que le feu et la fumée, et même que la rage insensée, impitoyable de la canaille. Les gouttières de la rue et chaque crevasse, chaque fissure dans les pierres de la muraille versaient les spiritueuses enflammées qui, bientôt endiguées par des mains actives, débordaient sur le trottoir et la chaussée et formaient une grande mare où les gens tombaient morts par douzaines. Ils étaient couchés par tas autour de ce lac effroyable, maris et femmes, pères et fils, mères et filles, des femmes avec des enfants dans leurs bras ou contre leurs mamelles, et là, ils buvaient jusqu'à la mort. Pendant que les uns étaient penchés, pressant leurs lèvres sur le bord pour ne jamais relever la tête, d'autres, d'un bond, s'arrachaient à cette boisson de feu et se mettaient à danser, moitié dans les transports d'un triomphe insensé, moitié dans l'agonie d'une suffocation dévorante, jusqu'à ce qu'enfin ils tombaient là, plongeant leurs cadavres dans la liqueur qui les avait tués. Eh bien, cela même, ce n'était pas encore la mort la plus cruelle et la plus effrayante qu'on eût à déplorer cette nuit-là. Du fond, des celliers enflammés où ils avaient bu dans leurs chapeaux, dans des seaux, dans des baquets, des cuviers, des souliers, on tira quelques hommes encore vivants, mais qui n'étaient qu'une flamme des pieds à la tête. Dans l'angoisse de leur souffrance insupportable, avides de tout ce qui ressemblait à de l'eau, ils roulaient leur corps sifflant dans cet étang hideux, et lançait à droite et à gauche des éclaboussures du feu liquide qui lapait tout ce qu'il rencontrait dans sa course, n'épargnant pas plus les vivants que les morts. Dans cette dernière nuit des grands troubles, car ce fut la dernière, les malheureuses victimes d'une révolte absurde devinrent elles-mêmes la cendre et la poussière des flammes qu'elles avaient allumées et jonchèrent de leurs débris méconnaissables les rues et les places de Londres. L'âme profondément empreinte de ce souvenir ineffaçable qu'un seul coup d'œil avait suffi pour lui révéler dans sa fuite, Barnabé sortit en courant de la ville qui recélait de telles horreurs, et baissant la tête pour ne pas même voir la lueur des feux souiller le tranquille paysage qui s'étendait sous ses yeux, il fut bientôt sur la route des champs paisibles. Il s'arrêta environ à un demi-mille du hangar où était couché son père, et faisant comprendre avec quelque difficulté à Hugues qu'il fallait descendre là, il jeta le harnais du cheval au fond d'une mare d'eau stagnante et abandonna l'animal à lui-même. Après cela, il soutint son compagnon du mieux qu'il put et l'emmena tout doucement du côté de leur asile.
Chapitre 69. On était au cœur de la nuit, et d'une nuit très noire, quand Barnabé, avec son trébuchant ami, s'approcha de l'endroit où il avait laissé son père. Cependant, il put le voir se dérobant dans les ténèbres, car il ne se fiait pas même à son fils, et se retirant d'un pas rapide. Après lui avoir crié deux ou trois fois, mais sans succès, qu'il pouvait revenir, qu'il n'y avait rien à craindre, il laissa tomber Hugues sur le sol et se mit à la recherche de son père pour le ramener. L'autre continua de se glisser furtivement dans l'ombre jusqu'à ce que Barnabé l'eût rattrapé. Alors il se retourna et lui dit d'une voix terrible, quoique étouffée, « Laisse-moi aller, ne me touche pas. Tu l'as dit à ta mère et vous vous êtes entendu pour me trahir. » Barnabé le regarda en silence. « Tu as vu ta mère ?»«
Non !» cria Barnabé avec ardeur. « Oh non ! Il y a bien longtemps, plus longtemps que je ne puis dire. Il doit bien y avoir un an. Est-ce qu'elle est ici ?»
Son père le regarda fixement quelques instants, puis il lui dit en se rapprochant de lui, car rien qu'à voir sa figure et à l'entendre parler, il était impossible de douter de sa sincérité. « Qu'est-ce que c'est que cet homme-là »«
Hugues, c'est Hugues, pas davantage, vous savez bien. Ce n'est pas celui-là qui vous fera du mal. » « Comment, vous avez peur de Hugues ? Peur de ce bon gros vieux farceur de Hugues ?»«
Je vous demande qui il est !» reprit l'autre d'un ton si farouche que Barnabé s'arrêta au beau milieu de ses éclats de rire et recula quelques pas, le regardant d'un air de stupéfaction et de terreur.
« Dieu, êtes-vous sévère ? Vous me faites trembler comme si vous n'étiez pas mon père. Pourquoi donc me parlez-vous comme cela ?»
« Je veux, » répondit-il en repoussant la main que son fils, d'un air timide, posait pour l'apaiser sur sa manche,
« je veux une réponse. Et au lieu de cela, vous me répliquez par les plaisanteries et des questions. Quel est l'homme que vous venez d'amener dans notre cachette, pauvre imbécile ? Et où est l'aveugle ?
Je ne sais pas où il est. Sa maison était fermée. J'ai attendu sans voir personne venir. Ce n'est pas ma faute. » Quant à celui-ci, c'est Hugues, le brave Hugues, qui a enfoncé cette odieuse prison pour nous délivrer. Ah, dites à présent que vous ne l'aimez pas, hein ? N'est-ce pas que vous l'aimez ?
Pourquoi est-il couché par terre ?
Il a fait une chute, et puis il a trop bu. Les champs, les arbres, tout ça tourne, tourne, tourne autour de lui, et la terre lui manque sous les pieds. Vous le connaissez bien, vous vous le rappelez. Tenez, regardez-le.
En effet, ils étaient revenus à l'endroit où il était couché, et ils se baissèrent sur lui tous les deux pour voir sa figure.
« Bien, je me le rappelle, » murmura le père. « Pourquoi l'avez-vous amené ici ?»«
Parce qu'il aurait été tué si je l'avais laissé là-bas. Si vous aviez vu comme on tirait des coups de fusil et comme le sang coulait, la vue du sang ne vous fait-elle pas trouver mal, mon père ? Je vois bien que si à votre figure, c'est comme moi. Qu'est-ce que vous regardez donc ?»«
Rien, » dit l'assassin doucement, après avoir reculé un pas ou deux pour regarder avec les lèvres serrées et l'œil fixe par-dessus la tête de son fils. Rien.
Il resta dans la même attitude et avec la même expression dans ses traits pendant quelques minutes, puis il promena lentement son regard autour de lui, comme s'il avait perdu quelque chose, et revint en frissonnant vers le hangar.
« Voulez-vous que je l'emporte là-dedans, père ?» demanda Barnabé, qui était resté pendant ce temps-là à regarder aussi, sans savoir ce que cela voulait dire.
Il ne répondit que par un gémissement étouffé en se couchant par terre, enveloppé de son manteau jusque par-dessus la tête, et se retira dans le coin le plus obscur. Voyant qu'il n'y avait pas moyen pour le moment d'éveiller Hugues ou de lui faire reprendre ses sens, Barnabé le traîna sur l'herbe et le coucha sur un petit tas de foin et de paille de rebut dont il avait déjà lui-même fait son lit, après avoir commencé par apporter un peu d'eau d'un ruisseau voisin pour laver sa blessure et lui nettoyer les mains et la figure. Ensuite, il se coucha lui-même entre deux pour y passer la nuit et, la face tournée vers les étoiles, il tomba dans un profond sommeil. Réveillé de bonne heure le lendemain matin par l'éclat du soleil, le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes, il laissa dormir les autres dans la hutte pour aller se promener un peu et respirer cet air doux et frais. Mais il sentit que ses sens harassés, accablés, alourdis par les terribles scènes de la veille et des autres soirées précédentes, se refusaient à jouir des beautés du jour naissant dont il avait si souvent goûté la douceur avec un plaisir infini. Il pensa à ces matinées heureuses où il allait avec ses chiens, bondissant comme lui au travers des plaines et des bois, et ce souvenir lui remplit les yeux de larmes. Il ne se reprochait pas, Dieu le bénisse, d'avoir fait le moindre mal. Et il n'avait pas changé de sentiment sur la justice de la cause où il s'était engagé ou des hommes qui la défendaient. Mais il était, en ce moment, plein de soucis, de regrets, de souvenirs effrayants. Il souhaitait pour la première fois que tel ou tel événement ne fût jamais arrivé et qu'on eût épargné à bien des gens tant de chagrins et de souffrances. Il commença aussi à songer combien ils seraient heureux, son père, sa mère, Hugues et lui, s'ils s'en allaient ensemble demeurer dans quelque endroit solitaire, où il n'y eut aucun de ces troubles à craindre. Peut-être l'aveugle, qui parlait de l'or en connaisseur et qui lui avait confié qu'il avait de grands secrets pour en gagner, pourrait-il leur apprendre à vivre sans ressentir l'aiguillon de la faim et du besoin. À ce propos, il regretta encore davantage de ne pas l'avoir vu la nuit dernière, et il méditait encore là-dessus quand son père vint lui toucher l'épaule. « Ah ! » cria Barnabé, tressaillant au sortir de sa rêverie. « Ce n'est que vous. Qui donc vouliez-vous que ce fût ? Je croyais presque que c'était l'aveugle. Il faut, père, que j'aie avec lui un bout de conversation. Et moi aussi, car si je ne le vois pas, je ne sais plus où fuir ni que faire. Et j'aimerais mieux la mort que de perdre mon temps ici. Il faut que vous alliez tout de suite le voir et que vous me l'ameniez ici. » « Vraiment ? » s'écria Barnabé charmé. « À la bonne heure, mon père, c'est tout ce que je demandais. Mais c'est lui qu'il faut me ramener, et pas d'autre. Surtout quand vous devriez l'attendre à sa porte pendant 24 heures. Attendez toujours, et ne revenez pas sans lui. « N'ayez pas peur, » criait-il gaiement, « je vous l'amènerai, je vous l'amènerai !»« Mettez bas ces babioles, » dit le père, en lui arrachant les bouts de ruban et les plumes qu'il portait à son chapeau, « et jetez mon manteau par-dessus vos habits. Faites bien attention à votre démarche. Du reste, on est trop occupé d'autres choses dans les rues pour qu'on vous remarque. Quant à votre retour, ne vous en inquiétez pas, il sera bien y pourvoir en toute sûreté. »« Je crois bien, » dit Barnabé, « certainement qu'il y pourvoira. C'est ça un habile homme, n'est-ce pas, mon père ? Est bien capable de nous apprendre le moyen de devenir riche. Oh, je le connais bien, je le connais bien !» Il fut bientôt habillé et aussi bien déguisé que possible. Cette fois, il avait le cœur plus léger en entreprenant ce second voyage et en laissant Hugues, encore abruti par l'ivresse, étendu par terre sous le hangar avec son père qui se promenait devant, de long en large. L'assassin, en proie aux plus tristes pensées, le regarda partir et se remit à marcher comme tout à l'heure, troublé par le moindre murmure de l'air dans les branches et par l'ombre la plus légère que les nuages en passant jetaient sur les prés émaillés de marguerites. Il était impatient de voir son fils revenu sain et sauf, et cependant, quoique sa vie et sa sûreté en dépendissent, il n'était pas fâché de le voir partir. Le profond sentiment d'égoïsme que lui inspiraient ses crimes, toujours présent à ses yeux avec leurs conséquences actuelles ou futures, absorbait et faisait entièrement disparaître toute pensée de Barnabé comme étant son fils. Bien plus, la présence de ce malheureux était pour lui un reproche pénible et cruel. Il retrouvait dans ses yeux égarés les terribles images de cette nuit criminelle. Son visage de l'autre monde, son esprit informe, représentait à l'assassin une créature qui avait pris naissance dans le sang de sa victime. Il ne pouvait supporter son regard, sa voix, son toucher, et pourtant, il se voyait forcé par sa condition désespérée et son unique chance d'échapper au gibet de l'avoir à ses côtés et de reconnaître qu'il ne pouvait sans lui songer à se soustraire à la mort. Il se promena donc de long en large, sans repos, tout le jour, roulant ses pensées dans son esprit, et Hugues était encore étendu, sans le savoir, sous le hangar. À la fin, au moment où le soleil allait se coucher, Barnabé revint, amenant l'aveugle et causant avec lui d'un air animé tout le long du chemin. L'assassin s'avança à leur rencontre et ordonnant à son fils d'aller parler à Hugues, qui venait de se dresser sur ses pieds, il le remplaça près de l'aveugle et le suivit à pas lents du côté du hangar. « Pourquoi l'avoir envoyé, lui ?» dit Stagg. « Ne saviez-vous pas que c'était le moyen de le perdre, sitôt qu'on l'aurait reconnu ?»« Ne vouliez-vous pas que j'y allasse moi-même ? » répliqua l'autre. « Hein ? Peut-être que non. J'étais dans la prison mardi soir, mais dans la foule, je vous ai manqué. » On avait hier soir de fameuses besognes. Oh, mais de la jolie besogne. Une besogne profitable, ajouta-t-il en faisant sonner l'argent dans son gousset. Avez-vous vu votre bonne dame ? Certainement. Eh bien, n'avez-vous rien à me dire de plus ? Oh, je vais vous dire tout, reprit l'aveugle en éclatant de rire. Pardon, mais j'aime à vous voir si impatient. C'est signe d'énergie. Consent-elle à dire le mot qui peut me sauver ? Non, répondit l'aveugle d'un ton décidé en tournant vers lui son visage. Non, voici ce que c'est. Elle a été à deux doigts de la mort depuis qu'elle a perdu son cher fils.
Elle est restée privée de sentiments, enfin, je ne sais pas quoi. Je l'ai été chercher dans un hôpital et je me suis présenté, sauf votre permission, au chevet de son lit. Notre conversation n'a pas été longue. Elle était trop faible. Et puis, il y avait là tant de monde auprès de nous que je n'étais pas à mon aise. Mais je lui ai dit tout ce dont j'étais convenu avec vous. Je lui ai fait toucher au doigt, et dans les termes les plus forts, la situation du jeune gentleman. Elle a voulu m'attendrir, mais comme je lui ai dit, c'était peine perdue. Alors, elle s'est mise à pleurer et à gémir, bien entendu. C'est toujours comme ça avec les femmes. Puis, ne voilà-t-il pas que tout d'un coup elle a retrouvé sa force et sa voix pour me dire qu'elle se mettait, elle et son fils, sous la garde de Dieu, que c'était à lui qu'elle en voulait appeler contre nous. Et elle le fit, ma foi, dans un langage tout à fait gentil, je vous assure. Je lui conseillai, en ami, de ne pas trop compter sur une assistance aussi éloignée. Je lui recommandai d'y songer à deux fois. Je lui laissai mon adresse en lui disant que j'étais sûr qu'elle l'enverrait chez moi le lendemain avant midi, et je la quittai pâmée ou faisant semblant de l'être.
Après ce beau récit qu'il interrompit de temps à autre pour casser et croquer à son aise quelques noix dont il paraissait avoir sa poche pleine, l'aveugle tira d'une autre poche un flacon dont il commença par boire une gorgée et qu'il offrit ensuite à son compagnon.
« Vous n'en voulez pas, n'est-ce pas ? » dit-il en sentant que l'autre repoussait le flacon. « Comme il vous plaira. Le brave gentleman qui loge là à côté de vous ne me refusera peut-être pas, lui. Mais, sacripant !»«
Au nom du diable !» dit l'assassin en le retenant par la basque, « ne me direz-vous pas ce qu'il faut que je fasse ?»«
Ce que vous fassiez, il n'y a rien de plus aisé. Une petite course de 2 heures, pas plus, au clair de la lune, avec le jeune gentleman qui ne demande pas mieux. Je l'ai catéchisé en chemin, et éloignez-vous de Londres tant que vous pourrez. » Vous me ferez savoir où vous êtes, et je me charge du reste. Il faudra bien qu'elle revienne, elle ne peut pas résister longtemps. Et en attendant, quant aux chances de vous voir rattraper, songez que ce n'est pas un prisonnier seulement qui s'est échappé de Newgate. Il y en a 300. Cela ne doit-il pas vous rassurer?
Mais enfin, il faut que nous vivions. Comment cela?
Comment? Répliqua l'aveugle. En buvant. Et en mangeant. Et comment boire et manger? Il faut payer. « C'est donc de l'argent qu'il faut, » cria-t-il en tapant sur son gousset. « C'est de l'argent que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Bah, les rues en étaient pavées. Ce serait diablement dommage que ça fût déjà fini, car c'est un bien joli moment. Un moment d'or, comme on en voit guère, pour pêcher en eau trouble dans tout ce remue-ménage. Hé, hola, veux-tu boire, sacripant ? Voyons, bois ! Où es-tu donc, hé ?»
En proférant ces vociférations d'un ton tapageur qui montrait sa parfaite confiance dans le désordre général et la licence des temps, il alla à tâtons vers le hangar où Hugues et Barnabé étaient assis par terre.
« Prends-moi ça » cria-t-il en passant à Hugues son flacon. « Il ne coule plus maintenant que du vin et de l'or dans les ruisseaux de Londres. Les pompes même ne versent plus que de l'eau de vie et des guinées. Prends-moi ça et ne t'épargne pas. »
Épuisé, sale, la barbe longue, barbouillée de fumée et de suie, les cheveux emmêlés par le sang, la voix presque éteinte et ne parlant que par chuchotement, la peau desséchée par la fièvre, tout le corps en capilotade, couvert de plaies et de meurtrissures, Hugues eut pourtant encore la force de prendre le flacon et de le porter à ses lèvres. Il était en train de boire quand le devant du hangar fut tout à coup obscurci par une ombre. C'était Dennis qui venait là se planter devant eux.
« Je ne vous dérange pas, » dit ce personnage d'un ton railleur au moment où Hugues cessait de boire pour le toiser d'un air peu agréable des pieds à la tête. « Je ne vous dérange pas, camarade. Tiens, Barnabé, ici, avec vous. Comment ça va-t-il, Barnabé? Et ces deux autres messieurs aussi, votre serviteur, très humble messieurs. Je ne vous dérange pas non plus, j'espère, n'est-ce pas, camarade ?»
Malgré le ton amical et l'air confiant dont il leur tenait ce langage, on voyait qu'il éprouvait quelque hésitation à entrer et qu'il restait volontiers dehors. Il était un peu mieux mis que de coutume. C'était toujours le même habillement noir, usé jusqu'à la corde, mais il avait autour du col une cravate d'assez mauvaise mine, d'un blanc jaune, et à ses mains des gants de peau comme les jardiniers en portent dans l'exercice de leur état. Ses souliers étaient tout frais, graissés et décorés d'une paire de boucles d'acier rouillées, les rosettes des genoux de sa culotte courte avaient été renouvelées et à défaut de boutons, il avait ses vêtements attachés avec des épingles. En somme, il avait l'air d'un recors ou d'un aide de garde du commerce, terriblement fané, mais encore jaloux de conserver les apparences de son rôle officiel et faisant bonne mine à mauvais jeu.
« Vous êtes joliment bien ici, » dit M. Denis, tirant de sa poche un mouchoir moisi qui ressemblait plutôt à un licou en décomposition et s'en frottant le front de toutes ses forces.
« Pas assez bien pourtant pour vous empêcher de nous trouver, à ce qu'il paraît, » répondit Hugues de mauvaise humeur.
« Écoutez donc, je vais vous dire, camarade, » reprit Denis avec un sourire amical, « quand vous voudrez que je ne sache pas de quel côté vous êtes à chevaucher, vous ferez bien de ne pas attacher de pareils grelots au cou de votre cheval. Ah, je les ai assez entendus la nuit dernière pour ne pas les oublier. Il me semble que je les ai encore dans l'oreille. Voilà la vérité. Mais voyons, comment ça va-t-il, camarade ?»
Pendant ce temps-là, il s'était approché et il s'était même risqué à s'asseoir à côté de lui.
« Comment je vais ?» répondit Hugues. « Dites-moi d'abord ce que vous avez fait hier. Où donc êtes-vous allé quand vous m'avez quitté dans la prison ? Pourquoi m'avez-vous quitté ? Mais qu'est-ce que vous aviez à rouler vos yeux comme vous faisiez et à me montrer le poing, hein ?»«
Moi, montrer le poing ? À vous, camarade ?» dit Denis, arrêtant doucement la main que Hugues venait de lever d'un air menaçant.
« Alors c'était votre bâton, c'est toujours la même chose. »«
Que le bon Dieu vous bénisse, camarade. » « Je n'avais rien du tout. Vous me connaissez bien mal. Je ne serais vraiment pas étonné maintenant, » ajouta-t-il du ton découragé d'un homme qui se sent calomnié, « que vous vous fussiez mis dans la tête, parce que je vous demandais de me laisser ces drôles-là en prison, que j'allais déserter le drapeau. »«
Eh bien oui, je me l'étais mis dans l'idée, » répondit Hugues en jurant.
« Quand je vous disais, » répliqua M. Denis tristement, « en vérité, il y a de quoi dégoûter de la confiance. Déserter le drapeau, moi, Ned. » « Denis, comme m'a baptisé feu mon père. »«
Est-ce à vous cette hache-là, camarade ?»«
Oui, c'est à moi, » dit Hugues du même ton de mauvaise humeur. « Vous l'auriez bien senti si vous vous étiez seulement trouvé sur son chemin cette nuit. Posez-la par terre. »«
Je l'aurais senti, » dit M. Denis sans la lâcher et examinant d'un air distrait si elle avait bien le fil. « Je l'aurais senti. Et moi qui pendant ce temps-là travaillais de mon mieux. Voilà bien le monde. » Vous n'auriez seulement pas le cœur de me demander si je ne boirais pas bien un coup au goulot de cette bouteille, hein ?
Hugues la lui passa. Comme l'autre l'approchait de ses lèvres, Barnabé fit un bond et lui recommandant de se taire, regarda dehors d'un air sérieux.
« Qu'est-ce que vous avez, Barnabé ? » dit Denis, observant Hugues et laissant tomber le flacon, mais non pas la hache qu'il gardait toujours à la main.
« Chut ! » répondit tout bas Barnabé. « Qu'est-ce que je vois briller là, derrière la haie ?
« Ce que c'est !» cria le bourreau à tue-tête en se saisissant de lui et de Hugues. « Ce ne seraient pas les soldats, peut-être !»
Au même instant, le hangar se remplit de gens armés et un détachement de cavalerie arriva à travers champs au grand galop.
« Là, » dit Denis, qui était resté libre pendant qu'il s'était saisi de leur prisonnier, « voici, messieurs, les deux jeunes gens que la proclamation a mis à prix. L'autre là-bas est un criminel échappé. « J'en suis bien fâché, camarade, » ajouta-t-il d'un ton résigné en s'adressant à Hugues. « Mais c'est votre faute. C'est vous qui m'y avez forcé. Vous n'avez pas voulu respecter les plus fermes principes constitutionnels, vous savez. Vous êtes venu violer et ébranler les fondements même de la société. Je ne sais pas ce que je n'aurais pas donné pour que vous ne fissiez pas ça, ma parole d'honneur. Si vous voulez, messieurs, les tenir fermes, je crois que je ne serais pas embarrassé pour les lier plus solidement que vous ne pourriez le faire. »
Cependant, cette opération fut suspendue pour quelques moments par un autre événement. L'aveugle, dont les oreilles étaient plus clairvoyantes que les yeux de bien des gens, avait été alarmé, avant Barnabé, par un bruit de frottement dans les buissons à l'abri desquels les soldats s'étaient avancés. Il avait fait immédiatement bonne retraite et s'était tapi dans un coin quelques minutes, mais dans son trouble, s'étant trompé sans doute en sortant de sa cachette, il était maintenant en pleine vue, courant à travers la plaine. Un officier cria aussitôt qu'il le reconnaissait pour avoir aidé la nuit précédente à piller une maison. On lui ordonna à haute voix de se rendre. Il n'en courut que plus fort, encore quelques secondes, et il était trop loin pour qu'un coup de feu pût l'atteindre. L'ordre donné, les soldats tirèrent. Il y eut un moment de profond silence, chacun retenant son haleine. Tous les yeux étaient fixés sur lui. On l'avait vu tressaillir au moment de la décharge, comme s'il avait eu seulement peur du bruit. Mais il ne s'était pas arrêté,
Il n'avait seulement point ralenti son pas, au contraire, il avait continué sa course encore une quarantaine de mètres plus loin, mais là, sans tournoyer, sans chanceler, sans aucun signe de faiblesse ou de frémissement dans ses membres, il tomba comme un plomb. Quelques soldats coururent à l'endroit où il était étendu, le bourreau les accompagnait. Tout cela s'était passé si vivement que la fumée n'était pas tout à fait dissipée et serpentait encore dans l'air en un léger nuage qu'on aurait pu prendre pour l'esprit que venait de rendre le défunt et qui désertait son corps d'un air solennel. Il n'y avait que quelques gouttes de sang sur l'herbe, un peu plus de l'autre côté quand on lui retournait. Voilà tout. « Venez voir un peu, » dit le bourreau, se baissant un genou en terre à côté du corps et regardant d'un air désolé l'officier avec ses hommes. « Voilà qui est joli. »« Ôtez-vous de là, » répliqua l'officier. « Sergent, voyez ce qu'il avait sur lui. » Le sergent retourna les poches de l'aveugle, les vida sur l'herbe, et trouva, sans compter quelques pièces de monnaie étrangères et de bagues, 45 guinées en or. On les emporta enveloppées dans un mouchoir, laissant là, pour le moment, le cadavre, avec le sergent et 6 soldats, chargés de le transporter au poste le plus voisin. « À présent, si vous voulez partir, » dit le sergent en donnant une tape sur l'épaule de Denis et en lui montrant l'officier qui retournait vers le hangar. À quoi M. Denis répondit seulement « Je vous défends de me parler. » Et en même temps, il répéta ce qu'il avait déjà dit en terminant encore par « Voilà qui est joli. » « Il me semble que c'était un homme qui ne vous intéressait pas beaucoup, » remarqua le sergent froidement. « Et qui donc intéresserait-il ? » répliqua M. Denis en se relevant, « si ce n'est pas moi. » « Oh, je ne savais pas que vous aviez le cœur si tendre, » dit le sergent, « voilà tout. »« Le cœur si tendre ?» répéta Denis. « Le cœur si tendre ? Regardez-moi cet homme-là. Trouvez-vous ça constitutionnel ? Voyez-vous comment l'a percé d'une balle de part en part, au lieu de l'exécuter comme un bon Anglais ? Le diable m'emporte si je sais maintenant de quel côté me retourner. Votre parti ne vaut pas mieux que l'autre. Que va devenir le pays ? Si le pouvoir militaire se permet de se substituer comme ça aux autorités civiles, qu'avez-vous fait des droits du citoyen, de cette pauvre créature, notre semblable, en le privant du privilège de m'avoir, moi, pour l'assister à ses derniers moments? Est-ce que je n'étais pas là? Je ne demandais pas mieux que de le servir, j'étais tout prêt. Nous voilà bien lotis, camarades. Si nous faisons crier comme ça les morts contre nous, et que nous allions nous coucher tranquillement par là-dessus, c'est du propre. Peut-être trouva-t-il dans son chagrin quelque consolation à garrotter les autres prisonniers. Il faut l'espérer pour lui. Dans tous les cas, la sommation qu'on lui fit de se mettre à la besogne parut le distraire, pour le moment, de ses pénibles réflexions, en donnant à ses pensées une occupation qui les flattait davantage. On ne les emmena pas tous trois ensemble, on en fit 2 escouades. Barnabé et son père allèrent d'un côté, au centre d'un peloton d'infanterie, et Hugues, bien attaché sur un cheval, suivit un autre chemin avec une bonne escorte de cavaliers. Ils n'eurent pas occasion d'avoir ensemble la moindre communication pendant le court intervalle qui précéda leur départ, parce qu'on eut soin de les tenir rigoureusement séparés. Hugues s'aperçut seulement que Barnabé marchait la tête basse au milieu de ses gardes, et qu'en passant devant lui, il souleva doucement, en signe d'adieu, sa main chargée de chaînes, sans lever les yeux. Quant à lui, il ne perdait pas courage tout le long du chemin, persuadé que la populace viendrait forcer sa prison, où qu'il fût, pour le mettre en liberté. Mais quand ils furent entrés dans Londres, et particulièrement dans Fleet Street, naguère le quartier général de l'émeute, et qu'il y vit les soldats occupés à poursuivre jusqu'à la dernière trace du rassemblement, il vit qu'il fallait renoncer à cette espérance et reconnut qu'il marchait à la mort.